Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on parle catch, comme son nom l'indique. On fait le débrief de l'émission phare de la WWE, Monday Night Raw. Pour m'accompagner cette semaine, il est de retour après un périple au Japon, l'immense Amiral Armbar. Comment ça va, Amiral?
Mais très bien, et toi Ringside, comment ça va?
Ça va, la pêche. Alors, ce Monday Night Raw du 22 mai, c'était à Grand Rapids, toujours aux États-Unis, ils sont pas à l'extérieur cette fois-ci. Et bon Amiral, je suppose que tu vas me demander le programme, hein? On va pas se lancer comme ça.
Oui, c'est quoi le programme de ce soir, Ringside?
Eh bien, rien moins que Roman Reigns qui veut faire le ménage dans son terrain de jeu, les débuts d'une ancienne star de NXT, Alexa Bliss goes extreme, Kalisto s'inquiète pour Apollo, on détermine une stipulation pour le championnat tag team et Paul Heyman vient prospecter de nouveaux talents. Du beau programme, hein, en perspective.
Ça a l'air plutôt sympa, ouais.
Hein, t'as vu ça? Bon, ouais. Sur Alexa Bliss qui goes extreme, c'est un peu un mensonge, hein. Je vous cache pas, c'est survendu. Allez pas vous imaginer des trucs. En prélude, on nous rappelle les enjeux d'Extreme Rules. C'est un joli montage vidéo, hein. On va nous parler donc de ce Fatal 4-Way qui va opposer Bray Wyatt, Samoa Joe, Seth Rollins, Roman Reigns et Finn Balor. Donc, on démarre l'émission avec Bray Wyatt qui arrive au ring et qui demande à la foule de se lever. Stand up, demande-t-il. Il est là, tel un prêcheur. Réjouissez-vous de l'arrivée de votre sauveur, le seul vrai sauveur. Il monte une métaphore de Brock Lesnar, la bête qui est un peu la société qui nous dévore de l'intérieur, qui nous persécute, qui nous fait peur. Mais il annonce que lui, il va festoyer du cœur noir de la bête. Il est le seul à pouvoir nous sauver. C'est pour ça qu'il gagnera à Extreme Rules. Et demandez-lui pourquoi les autres ne gagneront pas. Demandez-lui pourquoi Seth Rollins ne gagnera pas. Eh bien parce que Bray Wyatt a déjà sacrifié Seth Rollins. Samoa Joe, il l'a déjà sacrifié aussi. Le démon lui-même, le Demon King, verra la vérité. Finn Balor verra la vérité. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Bray Wyatt. Et pour Reigns, hein, ici c'est son backyard, ici c'est son terrain de jeu, mais qu'est-ce qu'un terrain de jeu pour l'homme qui possède le monde, qui possède l'univers? C'en est trop, Roman Reigns débarque, hein, on ne vient pas disputer le terrain de jeu de Monday Night Raw, ici ça appartient à Roman Reigns. Roman Reigns qui regarde la foule comme d'habitude, supérieur, il arrive face à Bray Wyatt, il lui explique que voilà, si tu commences à baratiner sur moi, à parler sur moi ici dans mon terrain, eh bien je te conseille plutôt de venir me parler en face. Wyatt affirme toujours que lui il est la vérité, qu'il est le seul à pouvoir battre la bête Brock Lesnar, mais Roman est un autre avis, c'est lui qui va gagner à Extreme Rules et c'est lui qui va battre Brock Lesnar pour récupérer la ceinture. You best believe that. Mais là son problème principal, il vient surtout pour dégager Wyatt de son ring. Donc là, on sent que ça va bastonner, mais le general manager Kurt Angle est aux commandes, l'ancien champion olympique, l'homme qui a tout gagné à la WWE, il débarque et il nous explique que ce soir, il est bien curieux de savoir qui a raison, qui détient la vérité. Et ben pour déterminer ça, on va avoir un match et il book Wyatt contre Roman Reigns, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc ça se bastonne fort tout de suite, hein. Bray Wyatt il envoie du lourd, Roman Reigns envoie du lourd également, mais au bout de quelques minutes Samoa Joe débarque, coquina clutch sur Reigns qui se dégage en écrasant Samoa Joe contre le coin du ring. Wyatt va alors assommer Roman Reigns. Eh ben, Samoa Joe, il porte un coquina clutch sur Bray Wyatt. Il n'y a pas de raison. La semaine dernière, on se souvient qu'il s'était pris un Sister Abigail de la part de Bray Wyatt. Donc là, il lui rend la monnaie de sa pièce. Là, c'est Rollins qui débarque. Il fait fuir Joe à coup de coup de pied, de kick, de drop kick. Reigns sauve ensuite Rollins qui allait se faire attaquer par Wyatt dans le dos grâce à un Superman Punch. Tout de suite après, retour dans les coulisses, Angle est un peu déçu hein, que son match d'opener ne s'est pas terminé. Il nous book un main event. Seth Rollins, Roman Reigns vont affronter Wyatt et Samoa Joe. Et en bonus, on a le fameux drifter Elijah Liasson qui arrive, qui nous fait un petit numéro de gratte. Kurt Angle lui dit, bien écoute, ça fait un moment hein, que toi t'essayes d'attirer mon attention. Ben écoute, c'est gagné. Ce soir, tu fais tes débuts et tu affrontes rien moins que le champion intercontinental Dean Ambrose. Donc ça, c'est pour un peu plus tard. On va s'arrêter là et on va te demander ton avis, mon bon amiral. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Alors, ça a été assez logique finalement que ce combat entre Reigns et Wyatt parte en sucette, parce que pour un opener c'était un peu étonnant, donc ça avait plus la gueule d'un main event, donc c'est pour ça qu'on les retrouvera avec Joe et Seth Rollins en plus en main event. Le discours de Wyatt, comme d'hab, un peu perché, hein, quand il lui raconte qu'il a sacrifié Seth Rollins, qu'il a sacrifié Samoa Joe, on se dit, on a vu la même émission la semaine dernière, parce qu'il a pas sacrifié, tu lui auras juste placé un finisher. Après voilà, ce qui est le bon point dans tout ça, puisque ça reste tout de même assez classique, c'est que bon, bah, il continue de faire monter la sauce pour ce Fatal Five Way Extreme Rules, le premier de l'histoire, donc pour déterminer le futur candidat à la boucherie face à Brock Lesnar. Donc oui, il continue à faire avancer un peu la storyline malgré qu'elle soit déjà finalement bookée depuis la semaine dernière, quoi. Enfin, on voit pas trop ce qu'ils peuvent rajouter de plus. Le match est entériné. On sait que c'est des top quart d'heure d'Euro, donc bon, qu'est-ce qu'on va voir comme surprise? Pas grand-chose, donc voilà. Et sur Elias Samson, The Drifter, assez étonné de le voir débuter pour son premier match face à Dean Ambrose, puisque ce mec, quand même, à NXT, n'a quasiment rien fait. Donc le faire catcher pour la première fois à Raw contre le champion intercontinental, ok, sacré push.
Ouais. Belle entrée en matière pour le Drifter, on verra ça juste après. Ouais. Et pour le reste, bah effectivement, c'est une entrée en matière correcte pour un Raw. Voilà, effectivement, hein, l'affaire est faite un petit peu autour de ce Fatal Five Way. Donc, on remplit un peu du temps d'antenne. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter de plus.
Le truc, c'est que bah, du coup, qu'est-ce que vous avez fini Balor à ce moment-là, quoi? Il devait être aux toilettes, ouais, je sais pas,
question.
Ou en train de manger à la cantine. Mais c'est vrai que bon, bah, quand tu as les 4 du match à 5 sur le ring, il est assez logique que le 5e au moins arrive sur la rampe ou fasse un petit truc. Là, c'est un peu dommage que pour le booking de la soirée, on ait sorti Balor de cette confrontation à 4. Bon, bah, on verra après ce qu'il y aura du programme, rassurez-vous, les petits amis. Hein, j'ai quelque chose, Finn Balor, mais.
On y reviendra, ouais. À ce fameux Finn Balor. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser des Cruiserweight. Puisque ce soir, on a Akira Tozawa qui affronte Daivari. Kendrick est devant un moniteur. Pour regarder le match, et il nous explique que c'est lui le tuteur, c'est lui le maître, et c'est Tozawa l'élève, hein, faudrait pas confondre. Donc Kendrick est même interviewé pendant le match, hein, il explique que le seul point sur lequel Tozawa lui est supérieur, c'est sur ses cris d'oiseau. Bon, le match est bien enlevé avec un Tozawa qui déroule, et donc victoire, hein, assez logique de Tozawa suite à une énorme descente du dos là depuis le coin du ring, et on annonce un street fight à 205 Live. J'enchaînais aussi sur l'affrontement entre Tony Nese et Austin Harris. Neville est au bord du ring. C'est un match qui tourne autour des soumissions, des prises de soumission. Hein. Austin Harris essaye absolument de placer sa last chancerie. Donc le match se termine effectivement justement par un enchaînement guillotine sur Tony Nese qui essaye de se délocager en écrasant son adversaire au sol, mais ça ne fonctionne pas. Austin Harris ne lâche pas l'affaire et il place la last chancerie. Victoire de Harris. Et après le match, Neville, qui était venu accompagner Tony Nese, attaque Tony Nese et lui place une prise de soumission, voilà, pour lui apprendre un petit peu comment que ça se passe. Alors j'ai tout enchaîné parce que je me dis, toi t'es parti quand même depuis 4 semaines Et je crois qu'on en est toujours au même point au niveau des cruisers. Ouais, tu dois pas être dépaysé, non?
Non, pas dépaysé du tout. Ceci dit, on a suffisamment reproché à la ceinture Cruiserweight de changer trop souvent. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit le règne du roi Neville. Ils ont appris leurs erreurs et ont sont décidés de laisser la ceinture Cruiserweight sur le dos de la même personne pendant assez longtemps pour bien construire la rivalité avec Harris qui date maintenant de WrestleMania. Donc ça fait que finalement quelques mois, hein, c'est pas non plus trop long. Donc au moins, ça permet de se développer. Et à WrestleMania, dans leur match, hein, il y avait déjà eu un petit duel entre la Sanctuary de Harris et le Rings of Saturn de Neville. Donc là, quoi de plus logique que d'avoir un match à stipulation de soumission pour Extreme Rules? Je trouve ça plutôt pas mal. Surtout que les prises sont assez visuelles, je trouve, l'une comme l'autre. Harris arrive à la placer en faisant des transitions, comme il nous a montré ce soir, qui sont assez exceptionnelles. Neville a une belle intensité quand il la place sur Tony Nice à la fin du match. Donc non, moi, ça n'a pas trop changé, mais c'est pas grave. Je trouve qu'aujourd'hui, l'affiche Neville-Harris, elle est toujours assez alléchante et j'ai bien hâte de voir leur match de soumission à Extreme Rules et peut-être un changement de titre. Enfin, voir le Double A, The Greatest Man Alive, toucher la ceinture à la WWE. Concernant Tozawa et Kendrick, effectivement, pas de changement. Les deux sont toujours en rivalité. Cette rivalité m'intéresse franchement beaucoup moins. Par contre, j'aime bien toujours voir Tozawa dans le ring. Hein. Il a vraiment un côté percutant et efficace qui est toujours impressionnant. Il a toujours ses snap suplex qui sont tonitruantes. Par contre, à la fin du match, donc il célèbre avec la foule. Il se rapproche du public d'une petite fille qui est déguisée en Bailey avec les bandeaux, etc. Puis il fait son cri. Wah! 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 En se rapprochant à 20 cm d'elle, je pense qu'elle a eu la peur de sa vie. Elle voudra plus jamais revoir un match de catch. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça ce moment assez rigolo. Faut le revoir, c'est super drôle. Donc voilà. Les cruisers, toujours égaux à eux-mêmes, mais bon, c'est jamais de mauvais matchs, hein, courts, etc. Mais c'est jamais une purge non plus, quoi. Ah, je ne t'entends plus, mon cher Ringside.
Effectivement, au
Yes.
niveau in-ring, c'est un peu mieux que ce qui se faisait les autres semaines. Là, ça se maintient. Et puis, pour des rivalités qui durent. Après, c'est toujours un petit peu dommage d'avoir le finish à 205 live sur certains trucs. Mais
Ouais.
voilà, ça fait partie du jeu. Rien de honteux cette semaine. Allez, après toute cette violence, on va aller chez les filles. Alors, on a Sasha Banks dans les vestiaires qui est confrontée à Alexia Fox, accompagnée de Noam Dar, suite à la défaite surprise hein, la semaine dernière de The Boss. On a une revanche qui est annoncée ce soir. Alors, Sasha Banks, elle va remettre à sa place Noam Dar, hein, qui joue très bien les crétins là, pour accompagner la belle Alicia Fox. Donc, plus tard dans l'émission, on a ce match Alicia Fox contre Sasha Banks. Victoire assez expéditive de Sasha Banks qui termine avec un double knee stomp. Après le match, Noam Dar vient encore asticoter. Sasha Banks, il se moque, il est méchant et il se prend une baffe. Mais on ne gifle pas comme ça le petit copain d'Alicia Fox. Alicia Fox, la belle attaque Sasha Banks et place le double knee. Non, son pas un double knee, un ciseau de jambe façon Booker T. Voilà, une victoire de Sasha Banks, mais quand même, Alicia Fox ne s'en laisse pas compter. Est-ce que ça te plaît, toi, cette petite historiette de bas de tableau?
Alors, tu disais effectivement tout à l'heure pour le Cruiserweight que malgré les 4 semaines d'absence, ça n'avait pas trop changé. Là, niveau de Sasha Banks, de l'avoir en rivalité face à Alicia Fox et apprenant qu'elle a effectivement perdu dernièrement, c'est du gros changement. Est-ce que c'est une grosse dégringolade de la boss? Je ne sais pas. Je pense que c'est pour lui donner quelque chose à faire le temps qu'on l'écarte de la ceinture pour un peu renouveler les rivalités et pas de suite avoir ce Sasha Banks Bayley que les fans de NXT de la première heure salivent de revoir sur un pay-per-view du main roster. Ouais, non, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Hein. SmackDown, ils ont James Ellsworth. Apparemment, en Raw maintenant, on a Noam Dar qui fait à peu près le même boulot. Alicia Fox, elle a fêté, je crois, ses 10 ou 15 ans, je sais plus, avec WWE récemment. Bon, bah, elle a pas vraiment évolué depuis l'époque, quoi. Hein. Donc, elle est athlétique, faut reconnaître ce qui est, mais son personnage est aussi épais qu'une rivalité écrite pour Roman Reigns. par les bookers et elle a toujours pas de charisme. Son in-ring n'a jamais vraiment évolué. Ce qu'elle fait, elle le fait bien, mais c'est pauvre, quoi. Donc, du coup, Sasha Banks, on peut dire qu'elle est quand même sous-utilisée face à une adversaire comme ça, quoi.
Ouais, c'est sûr que c'est un peu dommage pour la
Ouais.
belle Sasha Banks, la talentueuse Sasha Banks, de rester un petit peu coincée à ce niveau, mais bon, faut bien l'occuper.
C'est
Apparemment,
ça.
il y a des blessés.
Il y a Emma qui est blessée, c'est ça?
Emma est blessée toujours et
Nia Jax.
Alors Nia Jax, c'est la grande absence, hein, la grande absente, pardon. On va enchaîner. Charlie Caruso, la belle Charlie Caruso reçoit Alexa Bliss en interview, la championne Alexa Bliss. On nous fait un petit topo sur la semaine dernière, le coup de kendo stick qu'elle a donné à Bayley, qui a laissé des marques dans le dos de Bayley. On voit des photos, c'est violent. Alexa Bliss nous explique que toutes ces images, ça l'a fait saliver. Elle a hâte de se retrouver face à Bayley pour lui donner une correction. Et ce soir, elle va donner un avant-goût de Extreme Rules en affrontant Mickie James. Une certaine Mickie James, une ancienne championne apparemment d'Euro, mais qui apparemment le public ne connaît pas trop.
C'est vrai
Mickie James.
qu'elle a laissé le public de marbre hein, quand elle est arrivée.
C'est ça, mais ça fait
Aucune
plusieurs
pop,
semaines
rien, quoi.
que le public est un peu silencieux quand elle débarque. Un peu beaucoup silencieux, mais là, cette semaine, elle a sorti les boobs des grands soirs. Donc, je pense que la semaine prochaine, elle retrouvera un petit peu de charisme dans le ring, un petit peu de pop. Et donc, on a un joli match, hein, déroulé de kick de Mickie James, un peu dans tous les sens. Alexa Bliss qui est un peu dépassée tout au long du match, mais qui finit par placer une méchante droite sur Mickie James et placer son DDT létal. Voilà, victoire d'Alexa Bliss, de la championne quand même en un coup quasiment. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va à l'extérieur du ring, on cherche sous le tablier du ring et on trouve un kendo stick. Et c'est parti pour les coups de kendo stick sur Mickie James. Ça fait mal, mais Bayley, la gentille Bayley, débarque et fait fuir Alexa Bliss. Voilà un petit peu d'avancée dans cette rivalité autour du titre féminin. Bayley qui défend Mickie James. Mais alors, effectivement, où est passée Nia Jax? Je te le demande, est-ce que tu as une info à ce sujet?
Je pense qu'elle est toujours entendue par la police suite à tentative de meurtre qu'elle a fait sur Charlotte il y a un mois et demi. Je pense que c'est ça le problème.
C'est peut-être
Non,
ça,
à mon
effectivement.
avis, ouais, peut-être qu'elle s'est fait recadrer. Enfin, c'était tellement violent et impressionnant ce botch que peut-être que ça lui a valu d'être écarté un petit peu, de repasser par de la formation. J'en sais rien. En tous les cas, Mickie James, ben je suis content de voir qu'elle a su remettre à niveau son catch. Hein. Moi, j'avais été assez critique suite à son retour. Je trouvais qu'elle était pas assez rapide, un peu molle. Ça me vendait pas du rêve. Là, je vois dans ce match face à Alexa Bliss que, ok, elle a un peu réaffûté tout ça, donc ça c'est pas mal. Petit bémol par contre sur le finish du match, je trouve que sa grosse droite, Alexa Bliss et son DDT, c'est peut-être pas assez impressionnant pour. Je sais pas si son nouveau finisher, son finisher actuel, hein, Alexa Bliss, hein, mais ça manque un petit peu de fioriture, d'impact, je sais pas quoi. Donc après, elle fait bien le boulot, hein. Il est clair que elle gère bien son personnage. Moi, j'adore plein de gimmicks qu'elle peut avoir dans le ring, dans le posing avec ses ceintures, ça marche très bien. Et au micro, elle émet vraiment très bien aussi. Mais je trouve que ça manque un peu d'explosivité sur la fin du match.
Ah ouais, un peu expéditif ce finish. C'est le DDT, hein, son nouveau
Ouais,
finish
mais ça
à la
manque, je
belle
sais pas,
Alexa.
d'un petit mouvement, d'un petit truc pour
Ouais,
l'amener,
faudrait un petit truc en
pour
plus.
en faire un DDT qui n'est pas juste un DDT, quoi. C'est comme un peu si on prend le glorieux DDT de Bobby Roode, hein, c'est un DDT, mais il met un truc autour qui fait que, ok, c'est le DDT de Bobby Roode avec lequel il gagne les matchs. Là, celui d'Alexa Bliss, c'est un DDT. Et ça
C'est vrai.
manque d'un truc.
T'es vieille école, hein, le DDT pour finir un match.
Ouais.
Mais bon, après, elle a suffisamment de talent, comme tu dis, hein, dans son acting, dans ses mimiques pour nous faire avaler la pilule. Et puis, effectivement, on avait une Mickie James à un bon niveau. Voilà, j'ai passé du bon temps. Mais alors, la grande inconnue, c'est qu'est-ce qui s'est. Où est passée Nia Jax? Elle était bien en garde du corps d'Alexa Bliss, hein, on aurait pu juste la voir à côté du ring là comme ça, mais bon, visiblement c'est quelque chose qui a été oublié effectivement, le fait qu'elle ait fait des gros botch comme on dit quand elle a affronté Charlotte, ça finalement ça a peut-être été mauvais pour elle. On en saura sûrement plus dans les semaines qui viennent. Bon, allez, avançons. Une grande première, donc The Drifter, Monsieur Elias Sanson affronte Dean Ambrose, le champion intercontinental. Donc le Drifter, il commence par chanter une petite chanson là au milieu du ring, il se fait pourrir par le public comme c'est pas permis, donc l'effet est réussi, hein, vraiment il arrive à peine au bout de 30 secondes, il est déjà détesté de la foule. Il chante une chanson effectivement très insultante, hein, de toute façon pour le public. On a Miz et Maryse qui sont aux commentaires. Et donc on a un match avec donc le Drifter qui nous montre que bah il a pas beaucoup appris, hein, depuis NXT, pas grand chose à se mettre sous la dent, des coups de poing, des cordes à linge, des headlocks, voilà, rien de phénoménal. C'est pas son atout, hein, l'in-ring à ce pauvre Sanson. Le Miz finit par débarquer, il n'en peut plus d'être aux commentaires, il vient et à la surprise générale, il attaque le Drifter, ce qui entraîne une disqualification de Dean Ambrose. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle qu'à Extreme Rules, Dean Ambrose affronte le Miz et la clause du match, c'est que si Ambrose se fait disqualifier, il perd la ceinture. Donc là, on a un petit avant-goût, voilà ce qui peut se passer sur un match comme ça. Il aurait pu perdre sa ceinture, le pauvre Dean Ambrose. Donc après le match, quand même, Dean Ambrose, il course un petit peu le Miz, mais il se fait attaquer par le Drifter qui l'assomme. Et le Drifter est félicité par le Hit Couple, hein, Miz et Maryse. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit segment autour du titre intercontinental ?
Alors, est-ce que ça nous tease le fait que Extreme Rules, Maryse va frapper le Miz pour pouvoir faire disqualifier Dean Ambrose et que son mari récupère la ceinture ? On verra, hein. Ça peut, selon comment c'est fait, ça peut être intéressant, tout dépend de vraiment comment ils vont mettre ça en scène. Bon, de toute manière, ça appellera un rematch, etc., on verra bien. En ce qui concerne le Drifter, moi je suis toujours sceptique, hein, pour suivre NXT, je le connais bien, j'ai jamais vu un truc vraiment intéressant sur ce mec. Bon, il s'est gratté de la guitare et chantonné, et ça tirait la méga hit du public grâce à ça. Mais dans le ring, effectivement, ça a toujours été un catch très brutal, bénéficiant de sa carrure qui est super impressionnante, hein. Le mec, il est extrêmement balèze. Mais ouais, c'est des gros bourre-pifs. C'est je fais une gueule de psychopathe et je te marave. Et puis, à la finale, je perds généralement parce que je sais même pas ce que c'est son finisher en fait. Hein. Je crois que je l'ai vu seulement une ou deux fois parce qu'il a gagné peut-être que 3 ou 4 matchs à NXT. Donc, très étonné de le voir monter à Raw comme ça. Très étonné de le voir catcher contre Dean Ambrose direct. Je sais pas trop quels sont leurs plans avec lui. J'y vois pas de configuration dans laquelle ça pourrait être vraiment intéressant. Donc à voir, mais extrêmement, extrêmement sceptique quant à son avenir. Si ce n'est être un gros jobber balèze, je vois pas bien.
Ouais, je vois pas non plus.
Le seul moment à NXT où il était intéressant, c'est quand il avait fait un match contre Cassius Ohno et il avait perdu, il était viré d'NXT et donc Drifter était revenu déguisé en El Vagabundo avec un match de luchador, donc il avait fait un peu de comique. Là, c'était fun. Mais c'est le seul moment où vraiment il a suscité mon intérêt sur les semaines et les semaines où il était là, quoi.
Exactement, je pense qu'on va plutôt partir au final sur un mec un peu qui va jouer de la comédie wrestling, mais en mode un peu balèze. Une carrière à l'attitude Sonic, je pense, hein, pas beaucoup plus.
Ouais, avec Demon Sando aussi.
À moins que, ouais. À moins qu'il développe vraiment quelque chose dans le ring, mais bon, depuis le temps, ça se serait vu, hein, quand même, s'il avait un talent quelque part par là. Voilà, puis le Miz qui fait toujours son boulot côté, une petite rivalité qui va bien.
Très très bon, toujours dans les gimmicks, etc. Enfin, la manière dont raconte l'histoire, le Miz est de toute façon excellent. Hein. Ça, c'est. Il est vraiment dans le top à ce niveau-là. À Raw, en tous les cas, à chaque fois qu'il est à l'écran, il dit un truc. Même s'il ne parle pas, il raconte quelque chose. Donc, ça là-dessus, chapeau.
Ouais, ça c'est du professionnalisme. Ouais. Voilà, donc l'avenir du Drifter, eh bien, écoute, on l'aura dans les semaines qui viennent. Alors, grosse alarme dans les coulisses. Big Cass court partout. Il est appelé par la sécurité. Enzo est mort. Le cadavre d'Enzo se trouve dans les coulisses. Mais après la pub, ça va mieux. Il est réveillé. Il est interrogé par la sécurité, mais il ne se souvient de rien. Il ne sait pas qui l'a attaqué. Kurt Angle est là, il promet
J'avoue, c'est
d'éclaircir.
moi.
C'est
J'avoue,
vrai.
c'est
Ah
moi.
ben voilà,
J'en
bah
pouvais
ça
plus,
va.
je l'ai massacré en coulisses, j'en ai trop marre, quoi. Donc voilà.
T'es
Pardon.
passé entre les mailles du filet parce qu'apparemment ils sont sur une autre piste, hein, donc ça restera entre nous. T'inquiète pas, les amis, hein, n'allez pas dénoncer l'amiral, hein, parce qu'après
C'est
je vais
pas
être tout seul à
grave.
faire du show et
Même si je suis coffré, ça valait le coup.
ça va aller le coup. Voilà, donc Kurt Angle promet d'éclaircir toute l'histoire, hein, en bon general manager. Bicasse est furieux et il annonce au GM qu'il ferait mieux de trouver le coupable avant lui, parce que si lui met la main dessus, hein, sur le coupable, bah, ça va tabasser. Hein.
Or else.
Or else, voilà, en mode Braun Strowman, ce bon vieux Bicasse. Bon, on va peut-être pas s'attarder là-dessus, puisqu'on n'en
Non,
saura pas plus pour
c'est
ce
ça.
soir.
Puis c'est pas très intéressant non plus,
C'est pas très
hein.
intéressant, mais ça permet d'éviter un match de la Team Soft. Ce soir, par contre, Finn Balor affronte Karl Anderson. Finn Balor arrive au ring, il prend le micro. Alors, il associe toute la foule au Balor Club, hein, un peu à la manière d'un Seth Rollins. Hein. Voilà, on est là, on va aller à Extreme Rules, nous allons gagner le match. Nous allons devenir champion universel. Tout ça est palpitant, mais voilà que Paul Heyman débarque, l'avocat du champion de l'univers, Brock Lesnar. Paul Heyman, qui nous explique que Brock Lesnar, pardon, va transformer tout le monde en victime. Il fait la revue des troupes, hein, donc Seth Rollins victime, Samoa Joe victime, Bray Wyatt victime. Roman Reigns victime aussi, hein. Il aura beau faire ce qu'il veut, ce sera quand même une victime. Mais par contre, Finn Balor, là, il vient et il lui passe de la pommade. Il dit, toi, Finn Balor, personne ne t'attendait, mais moi, je te vois, je suis sûr que tu as toutes tes chances. Tu es sûrement le plus talentueux du roster, qui lui dit, quand même. Et il lui souhaite office. C'est pas rien, hein, venant de Paul Heyman. Et il lui souhaite officiellement bonne chance, mais serrage de main, très sportif. Baylor demande alors à Paul Heyman de faire passer un message au champion Brock Lesnar. Fais-lui passer le message comme quoi moi je vais gagner à Extreme Rules et que je vais vaincre The Beast pour récupérer mon titre universel que je n'ai jamais perdu. Et donc ensuite on a le match proprement dit. Karl Anderson affronte Finn Balor. Donc Balor domine l'affrontement. Hein, c'est face à son ancien allié du Bullet Club au Japon. Hein, il faisait partie du même clan. Donc vraiment, il a beau faire ce qu'il peut, Karl Anderson, c'est vraiment Balor qui est au-dessus. Victoire par coup de grâce. Malgré de nombreuses interventions quand même de Luke Gallows, le compatriote de Karl Anderson qui était aux abords du ring. Voilà, démonstration de force de Finn Balor. Est-ce que tu es comme Paul Heyman? Est-ce que tu considères que Balor, c'est vraiment le plus talentueux du roster? Est-ce que ça t'a convaincu toute cette séquence?
Alors, bah, forcément, Paul Heyman. Ouais, ça me convainc toujours, hein. C'est toujours un plaisir de le voir parler, là encore, même si dans le fond il n'avait pas grand chose à dire d'extraordinaire, c'était quand même super plaisant, c'était quelques minutes de promo que tu gardes en souvenir après le show, le moment où il dit oui, cette freaking Rollins, eh ben, ce sera une freaking victime, enfin voilà, quand il fait toutes les litanies des compétiteurs, c'est super bien trouvé, c'est dit avec une fluidité assez incroyable, c'est vraiment le maître du micro, donc c'est plaisant. Est-ce que Finn Balor est le plus talentueux du roster, difficile à dire, en tout cas moi j'apprécie de le voir catcher parce qu'on n'avait pas trop vu finalement avec sa blessure qui est arrivée très tôt suite à sa montée, donc toujours plaisant de le voir, ça serait original de le voir effectivement gagner, et après ça serait un peu un Goliath versus David, hein, si on le met face à Brock Lesnar, puisque la différence de gabarit est assez énorme, hein, il est plus fin même qu'un Seth Rollins, donc à voir, hein. Par contre, ouais, si Finn Balor voulait en savoir un petit peu plus, regardez sur le network le 24 spécial Finn Balor, qui est très intéressant, j'ai maté la semaine dernière, c'est plutôt cool, hein. Suite à sa blessure, on en apprend sur d'où il vient, ses racines, etc., ce qu'il a fait sa carrière, donc ça c'est cool, donc pourquoi pas, à voir, hein. Après sur le match en lui-même contre Karl Anderson, je trouve ça dommage qu'ils ne capitalisent pas plus sur le fait qu'ils étaient dans la même équipe au Japon, puisqu'ils en parlent ouvertement les commentateurs, hein. Donc pourquoi ne pas jouer cette carte à fond pour donner un peu plus de relief à ce match là ou une petite rivalité, j'en sais rien, de monter ça un peu plus en sauce, voilà, je trouve que de toute façon, et le Bullet Club, ils sont toujours le cul entre deux chaises, on voit le hashtag BC comme hashtag Bullet Club sur les pantalons de Karl Anderson. ils font les signes, etc., mais ils vont jamais vraiment au bout du truc. Donc, ouais, qu'il faudrait qu'ils repensent un peu toute cette histoire et ce packaging autour de d'Anderson et Gallows, et notamment l'interaction avec Finn Balor, hein, puisqu'il y a un truc à faire qui serait pas dégueulasse. Hein. Donc voilà.
Tu as vu les statues de Karl Anderson et Luke Gallows au Japon? Parce que c'est apparemment des très grandes stars.
Non, je n'ai pas vu les statues de.
Ou alors que finalement
Pas
c'était peut-être
encore.
juste des champions lambda de la New Japan. Ouais, effectivement. Moi, je pense de toute façon, l'histoire de faire le Bullet Club à la WWE, c'était pas forcément le truc le plus judicieux. Autant les faire arriver frais avec un gimmick différent. Je pense que ça leur a un peu tiré vers le bas tout au long
Ouais.
de leur arrivée à la WWE. Il y avait peut-être autre chose à faire avec eux.
Ouais, puis changer les pantalons, quoi, les ring gear de Kenderson, parce qu'il y a le signe comme ça dessiné en blanc sur son pantalon noir, c'est ridicule, avec son hashtag baissé,
Exactement.
ça veut rien dire, quoi. Donc,
C'est
autant
ça, ça
refaire
veut
un
rien
truc,
dire.
c'est ça, visuellement, ils font visuellement, alors qu'ils devraient plutôt capitaliser sur justement l'interaction avec les anciens du Bullet Club, comme Finn Balor, qui devraient en parler, ils devraient faire une promo dessus, hein, enfin, quelque chose comme ça, quoi.
Ouais, monter vraiment quelque chose, mais là, c'est trop en demi-teinte pour que ce soit
Ouais,
convaincant.
c'est
Ça
ça.
les dessert plutôt qu'autre chose. Et donc, un rapprochement Paul Heyman de Finn Balor. Donc, ça, écoutez, la surprise, hein, est-ce qu'on va avoir un heel turn de Finn Balor qui va rejoindre Paul Heyman, ou est-ce qu'on va simplement avoir The Beast face au Demon King? Ça me plaît plus déjà. Hein, pour être un sacré gros match.
Ça serait plus original de toute manière aussi,
Ouais, oh
je
bah
pense.
oui, puis on a envie de voir des trucs comme ça. Avançons. On retourne en bas de la carte. Callisto, Apollo, Titus. Callisto dans les coulisses qui interroge Apollo fucking Crews. Pose la question, qu'est-ce qui t'arrive, mec? Tu mènes les batailles de Titus O'Neil, là. Qu'est-ce que t'as pas de mieux à faire que ça pour ta carrière? Apollo, il se démonte pas. Il lui explique qu'écoute, Titus, il est connu mondialement. Hein, c'est une star mondiale. Il a les contacts. Et que lui doit faire ce qui est bon pour sa carrière. Hein. Donc voilà, hein. Écoute, si on doit passer par là, on passe par là. Là-dessus, t'es un papa là, qui surprend son fils. Titus arrive, l'air grave, menaçant. Il annonce qu'il sait ce qui se trame hein, entre les deux. Il sait très bien ce qui se passe. Callisto, le petit luchador, tu veux rejoindre la Titus Brand? C'est ça, tu veux faire partie de ce grand mouvement mondial là? Tu veux faire du pesetas, hein, tu veux gagner des euros, des pesos, tout l'argent est bon à prendre. Mais en fait, non, Callisto refuse l'invitation. Titus est vexé, tout ça se réglera dans le ring. C'est un match Apollo Crews Callisto, avec Titus évidemment au bord du ring. Alors les encouragements, les ordres de Titus envers Apollo qui vont finir par distraire Apollo Crews qui a pourtant le match en main. Ils permettent à Callisto de placer une Saleda del Sol, létale pour le compte de 3, victoire de Callisto. Apollo se fait copieusement gueuler par Titus. Cette petite historiette de bad card, ce Apollo Crews qui rentre un peu dans le comedy wrestling, ça te entertain, ça te plaît?
La seule chose que je retiens, c'est que Kalisto a un nouveau theme song. Voilà.
Elle nous avait choqué, effectivement.
Voilà. À part ça, il fait toujours des lucha things, hein. Ça n'a pas
Lucha
bougé. Mais voilà.
Ping. Lucha, lucha, lucha. Voilà. C'est sympa, ça occupe un peu de temps d'antenne. T'es un peu déçu pour Apollo Crews ou au final, t'es pas convaincu, t'en fous maintenant finalement
Ah,
d'Apollo Crews?
je m'en bats complètement ce que je m'en bats, ouais. Alors ça, il m'a jamais intéressé et aujourd'hui toujours pas. Hein, bah,
Ouais,
après, c'est
du boulot.
la bad carte. Effectivement, s'il faut remplir les 3 heures d'antenne, il faut mettre des trucs. Mais bon, c'est pas pour ça que ça devient intéressant d'un coup.
Non, il faut encore un peu plus de boulot. Mais
Hein. Ouais.
moi, je trouve marrant Titus O'Neil. Donc, tout va bien. Restons dans le bas de la carte. Goldust de retour dans un petit montage vidéo. Il est dans le fauteuil du réalisateur. Il a récupéré cette place. The Golden Age is back. R-Truth qui va en faire les frais. Hein. On se souvient qu'il y a eu une belle trahison de Goldust. C'est fini la team Golden Truth. Goldust, il est méchant. Voilà, bon, là-dessus, on va pas trop s'attarder. T'es content de ce heel turn, toi, de Goldust, rapidement? Tu t'en
À
fous?
fond, je fais la
Ouais.
fête, c'est la joie.
C'est la joie, c'est
C'est la
la.
folie, hein.
Voilà, hein, c'est ça. Ça méritait son
Ouais.
petit. Ouais. Bon. Revenons au tag team, le championnat tag team. Cette semaine, Matt Hardy affronte Sheamus. Hein, Matt Hardy, c'est la moitié des champions, hein, les Hardy Boys, avec son frère Jeff. Et Sheamus fait partie des aspirants numéro 1 avec Cesaro. L'enjeu de ce soir, c'est le suivant. Le gagnant du match détermine la stipulation du match pour le championnat tag team qui aura lieu à Extreme Rules. Alors, on a un match long et dense où les adversaires se rendent coup pour coup avec un Sheamus toujours très stiff et un Matt Hardy increvable. Le champion tag team se relèvera notamment d'un white noise. Il subira une violente projection du tablier du ring sur la barricade lorsque Sheamus stoppera sa fameuse série de coups d'assommoir dans les cordes, histoire de frustrer le public. Hein, le public commence à chanter. 1, 2, 3, maintenant lui s'arrête. Non, cette fois-ci, les gars, vous ne l'aurez pas. La foule est à fond, on entend des chants « This is awesome ». Cesaro va tenter d'intervenir, mais il se fait contrer par Jeff Hardy avec un saut type Swanton Bomb. Matt Hardy profite de la confusion et gagne grâce à un Twist of Fate. Matt Hardy annonce la couleur, ils vont démembrer Cesaro dans un Steel Cage match à Extreme Rules. Voilà, match de la cage pour le prochain pay-per-view. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match qui a mis le feu au public ?
Bah moi, ça n'a pas mis le feu. Hein. J'ai pas chanté This is awesome dans mon salon.
Ce que je me disais.
Non, j'ai beaucoup de mal avec Matt Hardy. Je trouve que depuis son retour, il est dans des vitesses assez basses. Il est un peu mou, un peu comme Mickey James l'était à son retour. Hein. Je disais Mickey James, elle avait repris du poil de la bête. Bah, pas Matt Hardy à mes yeux encore. Hein. Il est un peu approximatif. Hein. Et certes, il y a toujours son gimmick incroyable, Never Die Attitude, etc. Mais j'ai du mal à y croire maintenant, hein, 15 ans après les Team Extreme. Tu sens l'âge qui est passé. Alors je sais pas, c'est moi peut-être qui ai la dent dure avec ce bon vieux Matt, mais je trouve que du coup leur ouais, ses capacités dans le ring, c'est pas vraiment ça. Son gimmick est toujours pas posé, puisqu'il y a un peu de Delete, un peu de Broken, mais pas trop. Donc je ouais, j'accroche pas. Après bon, un Steel Cage match à Extreme Rules avec les Hardy Boys et Cesaro, ça peut être pas mal. Il peut y avoir de la grosse violence de la part de Cesaro et Sheamus, et puis y avoir aussi de la grosse voltige suicidaire de la part de Jeff. Mais je sais pas quoi attendre de la part de Matt dans cet environnement-là.
Effectivement, je te rejoins parfaitement. Moi, je suis un peu sceptique. Je me demande même comment ils ont réussi à passer les tests médicaux, les Hardy, parce qu'ils ont l'air vraiment pas très en forme. Surtout Matt, ouais. Jeff, c'est un sacré bon vendeur. C'est un sacré bon vendeur, donc on a l'impression qu'il est au bout du rouleau, mais je pense qu'il y a une part d'acting quand même qui est assez phénoménale. Et puis, bon, quand il y a eu les chants This is awesome qui ont été lancés, moi, j'étais surpris. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, ça, c'est awesome. Bon, admettons. Donc on voit bien que le public, en fait, la qualité technique, il en a rien à battre. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est de voir ses stars s'affronter et voilà, faire preuve de résistance, de panache. Voilà, puis ça annonce du beau. Hein. Je pense qu'un match dans la cage entre les Hardy et Cesaro, ça peut être pas mal hein, quand même. Hein. Bon, même si c'est peut-être sûrement les Cesaro et Sheamus qui vont porter le match, mais les Hardy sont suicidaires, ils vont sûrement faire des trucs histoire de se briser les os un petit peu. Ça va être fun, donc voilà, bon, ça se part plutôt bien au niveau des tag teams. On a vu pire, hein, Arrow.
Oui, c'est pas la panacée.
C'est vraiment parce qu'on a pu... on est loin de NXT, hein, on est bon. On arrive tout doucement au main event. Bray Wyatt affronte Samoa Joe. Non, pas du tout. Bray Wyatt est en équipe avec Samoa Joe, excusez-moi, contre Roman Reigns et Rollins. Alors, on va isoler Roman Reigns. On va prendre le plus costaud. On va l'isoler du côté des méchants. On lui tape fort. Il y a des interventions de Joe. Des fois, c'est Wyatt qui est dessus. Et à un moment donné, Joe, qui n'est pas l'homme légal, va envoyer le Big Dog dans les barricades. Mais plus tard dans le match, c'est bien le beau Roman qui envoie le hideux Joe manger les barrières. Là, il enchaîne, il fait une guillotine sur Wyatt qui est alors l'homme légal. Basement dropkick sur Joe histoire de vraiment s'en débarrasser. Il remonte dans le ring, il va réussir à faire le tag. Retour gagnant de Rollins, des suicide dive, un double crossbody pour contrer une tentative de double superplex depuis le coin du ring. Les gentils ont la main, mais sur une tentative de Superman Punch, c'est la confusion, collision entre Roman Reigns et Seth Rollins. On s'engueule, Reigns est comme aspiré à l'extérieur par Bray Wyatt qui le piège dans un violent Sister Abigail à même le sol. Rollins se fait cueillir dans un coquina clutch de Samoa Joe qui est à ce moment-là l'homme légal. L'architecte suffoque et s'évanouit. Victoire des méchants. On revient dans les coulisses. Kurt Angle, qui regardait le spectacle sur un moniteur, est rejoint par nul moins que Finn Balor, dont on se demandait en début d'émission où est-ce qu'il était. Et bien, il était là. Et il demande justement à ne plus être écarté des main event. Il veut affronter un de ses concurrents la semaine prochaine. Et Angle lui accuse un refus et lui annonce que la semaine prochaine, il n'affrontera pas un, mais bien deux adversaires, un triple threat. Baylor contre Samoa Joe contre Bray Wyatt, et c'est un co-main event puisque dans la foulée Angle va aussi booker Seth Rollins contre Roman Reigns. On va régler ses comptes hein, après la petite dispute de ce soir. Angle s'auto-congratule: quel général manager exceptionnel je suis, it's true, it's damn true. Est-ce que tu es convaincu effectivement par ses talents de booking de Kurt Angle? Est-ce que ça t'a subjugué, ce main event et cette annonce pour la semaine prochaine?
Alors, quelle originalité dans le booking, hein. Non, c'est sûr, on paye un petit peu ce qu'on disait en début d'émission, le fait que, bah, ok, le Fatal Five Way est établi et on teste les différentes configurations les uns contre les autres. Après, ça reste logique, ça reste cohérent, c'est pas, ils prennent pas de risques, mais ne font pas n'importe quoi non plus, c'est pas débile, hein. Après, ok, hein, Samoa Joe versus Finn Balor versus Bray Wyatt, ouais, si c'est bien orchestré, ça peut être très très sympa à voir. Là, sur le Reigns Rollins, il faut qu'il joue à fond l'engueulade et qu'on ne se retrouve pas avec une alliance prévisible sur le Fatal Five Way sans qu'il y ait de turn, hein, mais juste une rivalité pour que ce soit intéressant. Les deux ex du Shield, hein, qu'on rappelle à chaque fois qu'on les voit à l'écran, Michael Cole, oh, les deux tiers du Shield. Bon, bah voilà, pas, rien de particulier sur le booking. Après, sur le match en lui-même, ouais, ça faisait le boulot, mais rien d'extraordinaire. Et je dirais que c'est un peu l'image de ce Raw au global. Ça fait le boulot, ça continue à avancer vers les trucs à Extreme Rules, mais rien vraiment qui sort. Qui ouais. Resplendit, qui nous étonne, qui nous divertit follement, quoi. Donc,
ouais, rien de transcendant, effectivement. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Main event solide, mais pas cataclysmique, on va dire. Et justement, puisqu'on parle un peu de ce bilan, de ce road ce soir, c'est l'heure du mot de la fin. Un flop, un top, une note. Dis-nous tout, Amiral, c'est à toi.
Eh ben, mon flop, ça va être ça, c'est un manque de surprise, là, 2 semaines de Extreme Rules, manque de surprise terrible, hein, sur tout ce qui se passe, y a rien qu'on a appris, hein, qui s'est réellement passé, dans ce Raw. Donc, un peu dommage, hein, un peu un Raw inutile, finalement, au niveau storyline, à part Enzo qui se fait, agresser par on ne sait qui. Le reste, ça continue sur un petit rail, voilà. Donc c'est un peu dommage, je trouve, hein, parce que j'aime bien la surprise, moi, dans le catch, ou du moins les trucs qui évoluent, qui changent. Mon top, ça va être Paul Heyman, hein, qui arrivait à raconter rien de neuf, mais était intéressant et j'étais captivé pendant 5 minutes, donc toujours un plaisir de voir le maître du micro. Et ma note, eh ben, du coup, ouais, un 3, parce que c'était moyen et rien de moche, des trucs sympas dans le ring, mais juste moyen, quoi.
Ok. Bah écoute, je crois que je vais te rejoindre un petit peu. Je vais mettre mon flop. Qui je peux mettre mon flop? Je suis en train de regarder qui pourrait avoir mon flop. Non, je vais le mettre à l'absence de Nia Jax. Tiens, j'aime pas, je comprends pas pourquoi elle est pas là. C'est un peu dommage de lancer des trucs comme ça et puis de les faire disparaître. Le top, à la surprise générale, je vais le donner à Titus O'Neil qui m'a bien fait rire ce soir. C'est mon ami, hein, Titus O'Neil, vous le savez.
Ouais. Tu as vu son TED Talk ou pas?
Son
TED Talk.
Ah non, j'ai pas vu.
Voilà, TED Talk, c'est des micro-conférences dans le monde entier. Et visiblement, TED Talk, on a donné une la semaine dernière. Je ne sais absolument pas sur quel sujet. Corey Graves nous dit qu'il a eu une standing ovation suite à son talk. Hein, donc,
ah d'accord. Voilà. C'est quoi? C'est sur Facebook, YouTube? On ne sait pas. Faut que je cherchera.
Ça va être sur YouTube. Hein, ils ont un site web, TED. C'est plein de micro-conférences sur énormément de sujets, les sciences, l'humanitaire, ce qu'on veut. La philosophie aussi, donc je suis curieux de voir ce que Titus O'Neil a raconté. S'il y a nos auditeurs de catch-up à regarder et veulent nous laisser un petit message pour nous dire ce qu'il y a, merci de le faire, mais voilà.
D'accord, ok, bah écoute, j'essaierai de trouver ça et puis on verra bien de quoi ça parlait.
Peut-être c'est la Titus Brand, je sais pas.
La Titus Brand, peut-être, ça y est, c'est lancé. Sur la note, je vais être un peu plus sévère. Je vais mettre 2,5 parce que c'était moyen. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Les matchs n'étaient pas terribles. Les débuts du Drifter, c'est pas convaincant plus que ça. Bon, ça, c'est moyen. Voilà, moyen. Donc, moyen, c'est 2,5. Hein, on note sur 5, donc forcément. Alors, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de l'autopromo, hein? C'est ça? Où
Eh
c'est qu'on
oui.
nous retrouve? On nous retrouve sur iTunes. Pour le podcast audio, sur PodCloud également, hein, pour nous écouter tranquillement. On nous retrouve sur Twitter, c'est CatchUpCDC. Sur Facebook, c'est CatchUpCDC aussi. Sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch. Sur le forum des Cahiers du Catch aussi, vous pouvez venir discuter, lire nos articles. Vous n'oubliez surtout pas, quand vous êtes sur YouTube, de vous abonner, hein. Il faut y aller. Maintenant, il faut s'abonner. Comme ça, vous avez tout de suite, dès que ça sort sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez. Vous mettez des pouces, vous likez, vous mettez des étoiles. Hein. On en a besoin. On vous en supplie. Mettez-en. Et voilà, l'affaire est faite. C'en est fini pour aujourd'hui. Mon bon vieil amiral, je te remercie beaucoup d'être venu.
Je t'en prie, un plaisir d'être de retour parmi vous pour de nouvelles aventures.
Plaisir partagé, ça fait plaisir de te revoir parmi nous. J'espère que ça fait plaisir à nos fans. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à faire cette émission, hein, comme on dit dans le métier. Et pour le reste, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
À plus, salut!